Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Je co-anime ce podcast avec Cathy Hamilton, chargée de projet à l'IFRI. Bonjour Cathy.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Julien Ossetti, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, qui a récemment publié une étude intitulée « Un Internet en morceaux ?», fragmentation d'Internet et stratégie de la Chine, la Russie, l'Inde et l'Union européenne. Julien Ossetti est docteur en sciences politiques, il travaille depuis longtemps sur les sujets liés au numérique. Il a par exemple coordonné plusieurs dossiers de la revue Politique étrangère sur cette thématique. Le premier, intitulé « Internet, outil de puissance », remonte à 2012. Je précise aussi que Julien est russophone. Parmi ses nombreuses publications, je me permets d'en citer une qui est relativement ancienne mais qui montre une certaine capacité d'anticipation. Il s'agit d'un focus stratégique de l'IFRI qui date de 2015 et qui avait pour titre « Guerre de l'information, le web russe dans le conflit en Ukraine ». Bonjour Julien, merci d'avoir accepté de venir à ce micro.
Bonjour Marc, bonjour Cathy.
Bonjour Julien.
J'aimerais commencer par une question générale. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs pourquoi aujourd'hui, plus encore qu'il y a une décennie, Internet est devenu un outil de puissance ?
Effectivement, c'est devenu presque un lieu commun que le dire aujourd'hui en 2024. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur ces questions en 2012, au fond, les usages du numérique étaient le plus souvent analysés dans une finalité militante. C'était un contexte post-printemps arabe, et à la fois en Tunisie, en Égypte, etc. On était très, très focalisés sur le potentiel de coordination, de mobilisation de ces outils, Facebook, YouTube, etc., à des fins citoyennes et politiques. C'était aussi un moment, vers 2012, où on s'intéressait de plus en plus, un peu timidement, mais ça commençait à monter en puissance, au jeu de pouvoir entre les acteurs internationaux dans les grandes enceintes de gouvernance de l'Internet. Donc sujet dont il est en petite partie question dans l'étude de l'IFRI dont on parle aujourd'hui. Et ce qui a évidemment changé depuis une décennie, un peu plus d'une décennie, c'est déjà la formidable diffusion du numérique à l'échelle globale, l'appropriation par quantité d'acteurs du jeu international, à la fois les États, mais aussi l'émergence et la puissance aujourd'hui acquise par les grands acteurs du numérique, qui ne sont pas tous américains, mais pour certains d'entre eux chinois, il faut aussi le préciser, et aussi le rôle des populations, de vous et de moi, au fond, hein, donc qui par notre capacité à agir via ce type d'outils, pouvons à certains moments, dans la vie de tous les jours ou au travers de conflits, avoir un impact sur une situation donnée. Donc c'est un point intéressant parce qu'on voit bien qu'en l'espace d'une décennie, ces enjeux ont explosé dans leur nature, dans leurs effets, et c'est bien là où le rôle des États revient en puissance par le foisonnement aujourd'hui d'acteurs de la menace avec, on connaît tous très très bien, hein, évidemment, des groupes cybercriminels, le foisonnement aussi de cyberattaques, de cyberopérations de la part d'acteurs étatiques. Donc c'est au fond le signe d'une fin d'innocence hein, en une petite décennie où on a vu, à la faveur de cette formidable diffusion, comme je l'évoquais, du numérique, le nombre de menaces et de risques aussi explosés.
Julien, vous commencez votre étude en indiquant qu'Internet est désormais plus fragmenté, moins libre et plus dangereux. Vous rappelez les termes balkanisation et splinternet. Pourrez-vous nous expliquer cette situation et ces concepts ?
Alors effectivement, je me suis attaché dans l'étude à un petit jeu sémantique parce qu'il me paraissait intéressant de retisser un petit peu les fils de cette notion de fragmentation qui au fond, à titre personnel, m'a un peu suivi depuis une petite quinzaine d'années. C'est un sujet qui, à mon sens, méritait qu'on s'y repenche en 2023-2024. Et en même temps, à titre personnel, je me sentais aussi très lié sur le sujet parce que c'est un terme, un enjeu qui est omniprésent dans les débats internationaux sur ces sujets de numérique qui ne concerne pas uniquement Internet, comme je peux l'expliquer dans l'introduction, mais qui aujourd'hui s'étendent à une myriade en fait d'enjeux liés au champ numérique à part entière, avec là aussi la multiplication d'enjeux liés notamment à la maîtrise des données, à la dissémination des intelligences artificielles. Donc tout ça aussi donnant lieu à des logiques de fragmentation à part entière. Mais au fond, derrière ce terme, ce qui peut être relevé devant vous, c'est que on a de plus en plus des jeux d'appropriation, de territorialisation, de plus en plus manifestes par les différents acteurs. Alors forcément, on parle beaucoup du rôle des États-Unis d'un côté, de la Chine de l'autre, qui envisage de créer des écosystèmes étanches, des écosystèmes à part entière, qui, par le jeu d'une part du droit, mais aussi des normes, des standards techniques et de l'influence politique, viserait à cantonner les usagers, les entreprises, les écosystèmes économiques à ces différentes briques technologiques. Donc c'est bien ça que cherche à refléter ce terme de fragmentation qui, là aussi, est perçu de façon parfois un peu différenciée par les différents acteurs. Et derrière le terme de balkanisation, sans revenir trop en détail dessus, là on a affaire à un terme qui a été maintes fois débattu et revient toujours actuellement dans certains débats très, très politisés. C'est simplement la référence à un processus d'émiettement des processus, des acteurs, des technologies et qui rappellerait par essence en fait ce qui a été le contexte post-Première Guerre mondiale avec un foisonnement de différents acteurs, avec une sécurité permanente, voire une situation, au bord du précipice. Donc, dans le cas de l'Internet, nous plongerait au bord de l'abîme, avec des risques existentiels quant aux usages qu'on peut avoir aujourd'hui du numérique. Le terme split internet, lui, est apparu peut-être plus récemment, au début des années 2000, et c'est la contraction du terme split, divisé et Internet, et qui montre bien également cette idée de scission de l'Internet en plusieurs plaques tectoniques. Il a eu une exception d'abord plutôt géopolitique, avec l'idée que certains régimes autoritaires, comme la Chine en particulier, mais pas seulement à l'époque, les Américains pointaient du doigt les politiques de l'Iran, de Cuba, la Russie était encore en arrière-plan de ce paysage mondial. Donc les tentatives de ces pays de se scinder finalement de l'Internet global en adoptant des politiques plus que souveraines dans ce champ numérique. Et c'est aussi des logiques commerciales qui ont été relevées, elles, plutôt à partir de la décennie 2010, qui, par le jeu des grandes plateformes qu'on connaît tous, enfermerait nous-mêmes, utilisateurs, dans des écosystèmes dont il serait extrêmement difficile de sortir. Sans donner des noms, aujourd'hui, il est effectivement très, très complexe de s'extraire de certaines briques technologiques et d'aller vers d'autres produits et services numériques. Donc c'est un terme qui a le mérite d'agréger différents processus, différentes tendances dans ces logiques de fragmentation.
Vous avez commencé là, dans votre réponse, à esquisser une typologie que vous développez dans l'étude, qui est en fait une typologie des fragmentations, puisque vous distinguez la fragmentation technique, la fragmentation commerciale et la fragmentation géopolitique d'Internet. Je vous propose que nous les évoquions successivement et commençons peut-être par la première des fragmentations, cette fragmentation technique.
Alors, la fragmentation technique, elle est peut-être la plus débattue, la plus souvent débattue dans les débats sur ces tendances de fragmentation. À l'échelle internationale également, c'est celle qui a concentré le plus de revendications de la part des différents acteurs, notamment étatiques. Et c'est là où vous avez d'une part une grande complexité de cet enjeu technique et qui peut effectivement paraître un peu aride pour l'observateur pas toujours attentif à cette dimension technique. Et en même temps, c'est là-dessus que, au fond, l'Internet qu'on utilise quotidiennement est susceptible d'évoluer le plus possible dans sa nature. Cette fragmentation technique, elle est le plus souvent scindée en trois grandes composantes. Vous avez d'abord la ressource critique qu'on appelle l'adressage. C'est ici les différents protocoles techniques qui vont servir à cette ressource fondamentale de la technologie Internet, avec une partie des débats qui s'est le plus souvent concentrée sur le processus de transition entre deux protocoles qu'on appelle l'IPv4 et l'IPv6, et en raison d'une appropriation très longue dans le temps, pas toujours uniforme, l'adoption de l'IPv6 a pu être perçue à certains moments comme une entreprise de fragmentation. Donc ça, c'est une perspective très souvent américaines qui, justement, montraient que dans les débats internationaux, cette question des protocoles techniques ne faisait pas consensus et pouvait, là aussi, cristalliser des jeux de puissance. Cette fragmentation technique, elle a aussi, et peut-être surtout, un lien direct avec la fonction de nommage. Donc, c'est là où la question des ressources critiques est la plus géopolitique, je dirais, parce que il y a un lien très étroit avec ce qu'on appelle le système de nom de domaine, le DNS en anglais, qui est un système très hiérarchique, qui correspond grosso modo à un annuaire qui va rendre intelligible des chiffres qui sont ensuite transcrits en lettres, et qui nous permettent de naviguer de façon simple et concrète sur Internet. Et ce DNS a fait l'objet de quantité de jeux de pouvoir, de revendications étatiques, le plus souvent par des États, effectivement, qui sont autoritaires, voire totalitaires, de façon à re-territorialiser leurs propres ressources critiques, à commencer par cette fonction de nommage sur leur propre territoire. Quand on parle, par exemple, de la stratégie de la Chine, on a le plus souvent affaire à cette question précise du nommage, qui a vu Pékin se saisir de cet enjeu-là dès l'origine, dès la commercialisation de l'Internet dans le pays. C'est aussi une question à propos de laquelle une institution de gouvernance de l'Internet a été mise très en avant, c'est l'ICANN, l'acronyme de l'Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, qui est une institution de droit californien qui a émergé à partir de la fin des années 90 aux États-Unis et qui a pu être perçue à certains moments comme un peu, pour faire court, le guichet unique des débats sur cette gouvernance de l'Internet. Et pourquoi c'est important de le rappeler quand on parle de cette logique de fragmentation technique aujourd'hui? Parce que à certains moments, l'ICANN a pu avoir des positionnements assez offensifs, assez visibles, je dirais, dans ces débats, et en même temps faire l'objet de très très vives critiques de la part des acteurs que j'ai pu citer auparavant, de façon à remettre en cause ce monopole dans cette fonction de distribution des noms de domaine, et ce qui a été pour le coup une tendance au long cours dans les débats sur ces sujets depuis déjà une bonne quinzaine d'années. Et puis finalement, un troisième enjeu qui est peut-être moins mis en avant dans les grands débats internationaux, c'est celui du routage. La façon dont les données que nous produisons quotidiennement, la façon dont ces données vont suivre des chemins, des routes particulières, être soumises à des juridictions aussi spécifiques. Et dans ce cas précis, toutes ces routes de l'Internet, en fait, vont faire l'objet de convoitises de la part des États. Certains d'entre eux, alors peut-être de façon intéressante, la Russie ou l'Iran ces dernières années, se sont lancés dans une vaste entreprise de maîtrise, voire parfois de manipulation de ces routes de l'Internet pour aller mener des campagnes de déstabilisation, de subversion, d'espionnage. Là aussi, pour non seulement essayer de contrôler ces grandes artères, et en même temps d'aller subvertir finalement ce que peuvent produire et échanger les internautes d'autres pays.
Est-ce que vous pourriez nous éclairer maintenant sur la fragmentation commerciale ?
Alors, la fragmentation commerciale, elle est je l'ai rappelé au tout début, peut-être une dimension à la fois plus récente et en même temps moins mise en avant dans les débats internationaux. Elle est liée de près à l'émergence et à la puissance acquise par les grandes plateformes Internet que nous connaissons tous. Elle est très souvent ramenée à la constitution de grands domaines, d'enclosures, de jardins fermés. Certains parlent aussi d'hacienda, donc l'idée d'aller constituer de grandes propriétés très, très, très cloisonnées, desquelles il sera très difficile de sortir. Ici, ce qui peut être relevé, c'est que les politiques de certains acteurs, alors ça peut être pêle-mêle, les Google, les Meta, par exemple, vont chercher par le jeu de leur propre architecture propriétaire, qu'ils contrôlent de A à Z, d'aller bloquer le transfert de données entre leurs différentes applications, par exemple, depuis déjà une certaine période. Ça, c'est quelque chose qui fait l'objet de débats qui sortent du cadre purement économique et qui prennent une tournure assez politique, notamment depuis des années à la Commission européenne, qui s'est intéressée justement à cette donnée très particulière. C'est un enjeu qui renvoie aussi à ce qui a pu être décrit en matière de plateformisation d'Internet, le fait d'assister à l'émergence de grandes plateformes, plus que monopolistiques, hein, qui ont parfois une dimension oligopolistique et qui, pour le coup, ont pour effet d'aller véritablement enfermer leurs utilisateurs dans des écosystèmes à part entière. Donc c'est bien cette dimension-là qui fait l'objet d'une attention toute particulière, non seulement de la Commission européenne, mais aussi de plus en plus du Congrès américain, pour des raisons historiquement liées à une volonté de lutte contre le non-respect des règles anticoncurrentielles, etc.
Fragmentation technique, fragmentation commerciale, et le troisième type, c'est donc la fragmentation géopolitique, sur laquelle on va revenir en détail en évoquant les différents acteurs, les différents États qui sont étudiés précisément dans votre rapport. Mais peut-être que vous pouvez introduire ça par une considération générale sur la fragmentation géopolitique.
Effectivement, cette fragmentation géopolitique, c'est celle qui est peut-être la plus facilement compréhensible pour le non-expert technique. Elle renvoie tout simplement à l'idée que, pour certains États, le droit est d'abord l'instrument privilégié pour opérer une reterritorialisation d'Internet au profit de logiques souveraines au sens westphalien du terme, ce qui pour le coup se traduit très concrètement dans le cas d'acteurs comme la Chine ou la Russie, qui sont les deux pays au travers desquels principales enquêtes et travaux de chercheurs ont été menés ces dernières années. Donc c'est un enjeu fondamentalement juridique au départ, un enjeu géopolitique aussi, parce que cette donnée liée à la fragmentation politique, en fait, montre bien que les conceptions derrière l'Internet, derrière la souveraineté aussi à l'ère numérique, peut cristalliser des rapports de puissance qui à certains moments peuvent donner des conséquences tout à fait politique. C'est vrai que ce qui a pu être manifeste au moment des révélations de Snowden en juin 2013 a bien montré que les États-Unis, d'un côté, pouvaient, par leurs différents programmes d'espionnage électronique, être fondamentalement en contradiction avec leur doctrine de liberté du numérique à l'échelle globale. Et en retour, ces programmes de surveillance ont montré que les jeux de subversion ou d'espionnage d'autres acteurs étaient aussi partie intégrante finalement de ces rapports de puissance. Donc c'est peut-être un exemple aujourd'hui connu, voire rebattu, mais qui montre bien l'appropriation géopolitique qui est celle des principaux acteurs internationaux à la faveur de ces logiques de fragmentation. Et ça aujourd'hui, ça se retrouve chez différents États qui ont été l'objet de l'étude.
Comme on s'est dit, dans la suite de votre étude, vous analysez les stratégies des grandes puissances numériques, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et l'Union européenne. Là encore, est-ce qu'on peut les évoquer successivement, commençant par le pays où tout a commencé, les États-Unis ?
Alors effectivement, le cas des États-Unis était assez particulier dans mon travail, parce que finalement, il y a un enjeu de rhétorique au départ, quand on évoque la fragmentation dans le contexte américain, sachant que la plupart des critiques pointant une fragmentation d'Internet émanent des États-Unis. Il faut être tout à fait honnête en la matière. L'appareil diplomatique américain s'est saisi de ces enjeux de très longue date. Les travaux des universitaires et think tankers américains en la matière ont été foisonnants. J'évoque certains d'entre eux au travers de l'étude, et c'est vrai qu'on a l'impression d'une grande cohérence et d'une consistance de cette posture américaine par rapport à cette fragmentation qu'il s'agit de détricoter. Quand on évoque le cas des États-Unis, il faut bien avoir à l'esprit que là aussi, l'objectif pour les États-Unis est bien au long terme de maintenir leur prééminence dans le champ numérique par des moyens tout à fait classiques qui ont là aussi été analysés à de multiples reprises. Mais ce qui est intéressant de voir quand on cherche à comprendre le rôle de ce pays dans les débats relatifs à cette fragmentation, c'est d'essayer au fond de distinguer les différentes tendances qui sont manifestées. Vous avez d'une part une subsistance, je vais dire, de la tendance libertarienne qui va toujours avoir aujourd'hui une forme d'influence dans certaines enceintes internationales, donc qui va être relativement critique du rôle des États, de l'idée même de souveraineté applicable au champ numérique, qui parfois à certains moments peut être dans peut jouer en faveur des grands acteurs privés du numérique, mais qui, au fond, a été rattrapé petit à petit par la sécurisation accélérée du champ numérique. Alors, en la matière, évidemment, les attentats du 11 septembre 2001, et puis évidemment, l'accélération des menaces dans le champ numérique depuis les années 2010 ont bien montré que voilà, les États-Unis s'étaient aussi saisis de cette question et avaient pu adopter des dispositions à la fois juridiques et politiques qui pouvaient conduire en essence à une fragmentation de l'Internet. Et là, les 4 ans de mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche ont montré une forme pas de retournement, mais du moins de paradoxe constant en la matière, parce que les États-Unis s'étaient, pendant cette période, entre 2016 et 2020, quand même souvent détournés de cet ADN justement, les faisait se distinguer de certains autres pays en matière de fragmentation. Donc c'est bien ça que j'essaie de relever, parce que cette posture américaine n'est pas aussi, est peut-être plus fluctuante qu'elle en a l'air, mais elle renvoie vraiment au départ à cet ADN diplomatique.
Enchaînons, si vous le voulez bien, avec le principal rival technologique des États-Unis, c'est évidemment la Chine. Vous parlez au sujet de la Chine d'une stratégie globale de fragmentation. Qu'est-ce que cela signifie ?
Alors effectivement, la formule est peut-être un peu péremptoire, dites comme ça. Dans le cas de la Chine, il faut bien comprendre que l'articulation entre la dimension interne du contrôle de l'Internet chinois et la projection de puissance internationale est assez finement en fait mise en œuvre. Et ça, dès l'origine, dès la commercialisation de l'Internet dans ce pays à la fin des années 90, où dès le départ, il s'agissait de bâtir une étanchéité, de faire en sorte que les flux de données ne soient pas aussi perméables que dans le cas des États-Unis ou des pays européens, par exemple, et même du voisin russe, hein, qui pendant très longtemps a eu cette très grande interdépendance par rapport au reste du monde. Ce qui est tout à fait notable dans le cas de la Chine, c'est une tendance qui n'est pas nouvelle, mais qui a pris une dimension très forte depuis au moins la pandémie de Covid, c'est une volonté de d'édicter les normes et les standards technologiques. Et là, en matière d'Internet, c'est absolument fondamental, ça renvoie à un activisme très présent de la part de différentes instances et acteurs chinois dans les débats sur la gouvernance de l'Internet une nouvelle fois, dans certaines instances techniques onusiennes, qui seraient peut-être fastidieux de mentionner devant vous aujourd'hui, mais qui montrent bien que pour les décideurs chinois, la capacité à pouvoir imposer des normes et standards techniques est perçue comme un enjeu de puissance très fondamentalement et permettra en retour aux autorités chinoises d'aller imposer certains termes aussi dans les débats relatifs à l'Internet. Donc l'articulation entre la technique et la rhétorique, la dialectique même je dirais, est extrêmement forte dans le cas de Pékin. Donc ça c'est tout à fait fondamental et a un lien aussi étroit avec la tentative de projeter à l'extérieur des frontières chinoises les grands acteurs du numérique chinois, donc les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei en particulier, ou TikTok bien sûr. Et ça c'est une donnée qui aussi renvoie à l'exportation de ces champions nationaux en étant étroitement soutenus par les autorités nationales qui aussi soutiennent ces grands acteurs du numérique dans le cadre du projet des nouvelles routes de la soie en essayant de les faire se développer à travers le continent eurasiatique en essayant de développer des bretelles jusqu'au continent africain et en Europe. Donc vous avez une cohérence d'ensemble là aussi entre les autorités étatiques du parti État chinois et les grands acteurs privés du numérique en matière de projection et de puissance. Cette fragmentation, elle est aussi en lien étroit avec l'architecture même de certains acteurs. On parle non seulement de TikTok dans les débats actuellement, mais aussi de WeChat, qui est en quelque sorte le couteau suisse par excellence du numérique chinois, qui permet d'accéder à la quantité de services numériques et qui montre bien que par le jeu de son architecture même, vous avez un ensemble et des sous-ensembles en fait applicatifs qui renvoie à autant de couches en fait que de voilà de tendance à une fragmentation là aussi by design en fait lié en fait à la au service même de WeChat. Donc c'est une imbrication, je dirais, finalement dans le cas chinois entre une volonté politique qui a été poussée il y a déjà deux décennies, le soutien des acteurs économiques qui, là aussi, renvoie à cette fragmentation d'un paysage mondial très, très divisé, et aussi le jeu de ces acteurs qui, par le développement de services très, très différents, aura aussi un impact dans ces tendances de fragmentation.
Parlons-en maintenant d'une autre grande puissance numérique, l'Inde.
Le cas de l'Inde est un peu un angle mort dans les débats sur cette fragmentation de l'Internet. Non pas que différents travaux, les différentes connaissances qui ont pu être accumulées sur ce pays soient inutiles, loin de là, en matière de numérique, mais quand il s'agit de comprendre ce que peut être une fragmentation dans le cas de la politique numérique indienne, c'est peut-être un peu plus complexe. Ici, il faut bien voir que les différentes tendances qui ont émergé à partir de 2015, donc avec l'arrivée au pouvoir de Modi à New Delhi, ont pu être analysés comme étant une forme de fragmentation. Vous avez d'une part un paradoxe indien qui est celui d'une très grande ouverture à la sphère numérique mondiale, avec la présence des grands acteurs de la tech dans le pays, en même temps des services informatiques indiens qui opèrent à une échelle globale, une circulation des capitaux humains des États-Unis à l'Europe, à la plupart des grands ensembles régionaux du monde, qui font que les interdépendance dans le cas de l'Inde sont encore très manifestes. Cela étant, vous avez quand même des velléités de politique souveraine dans ce champ numérique en Inde depuis là aussi l'arrivée au pouvoir de Modi, qui renvoie là aussi à la fois la nature même du régime qui est cohérente aussi avec d'autres secteurs industriels dans le pays. Ça ne concerne pas seulement le numérique, et en même temps le cadre de la compétition sud-américaine va beaucoup peser en retour sur la posture indienne. Et ici on se souvient forcément du contexte de la situation qui s'est produite il y a quelques années en relation à l'accrochage des forces indiennes et chinoises, où les autorités indiennes par la suite avaient rapidement décidé du blocage d'une soixantaine d'applications chinoises sur les mobiles des utilisateurs indiens. Et ça avait donné lieu à un début de prise en compte du potentiel de l'Inde dans cette architecture numérique mondiale, justement, pour aller pour être un acteur à part entière, et ça avait donné lieu à quantité de débats justement sur cette fragmentation en marche, parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de percevoir des jeux de sanctions adoptés dans cet univers-là par des acteurs non occidentaux.
Autre pays que vous abordez dans votre étude, c'est la Russie. Et la question que j'ai envie de vous poser au sujet de la Russie, c'est: est-ce que vous considérez que la guerre en Ukraine a représenter un tournant dans l'approche russe de l'Internet?
Le cas de la Russie est à la fois passionnant et en même temps très très complexe, parce que la situation est en cours. C'est-à-dire que les processus de fragmentation qui ont été analysés ces deux dernières années, surtout après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2024, montrent bien que la volonté politique d'aller plus loin, c'est-à-dire d'imposer un contrôle, une reterritorialisation complète d'Internet à une échelle nationale, hein, donc sur un pays qui s'étend sur 11 fuseaux horaires, il faut le rappeler, et aujourd'hui très très clair. Ça renvoie à une donnée majeure qui a été révélée tout récemment au travers des Kremlin-Leaks, il faut aussi le rappeler, parce qu'en fait, on a pu prendre conscience avec la teneur de ces révélations de la stratégie de long terme des autorités russes. C'est-à-dire que ce n'est pas un processus qui est né d'un claquement de doigts au Kremlin en réaction à une intervention militaire. C'est quelque chose qui avait émergé de très longue date, y compris pendant la période de 4 ans de la présidence Medvedev, je rappelle, entre 2008 et 2012, présidence pendant laquelle les observateurs occidentaux avaient plutôt tendance à mettre en avant la dimension plutôt pro-occidentale et de coopération possible entre nos écosystèmes numériques. Donc l'idée a fait évidemment long feu. Le contexte actuel montre que cette stratégie de long terme avait eu quelques résultats. Donc d'une part, le pari sur la loi, hein, donc une approche fondamentalement juridique qui vise à relocaliser le contrôle des données des utilisateurs russes sur le territoire russe avec la participation des acteurs économiques russes en interne. Mais effectivement, l'arrivée de la guerre à partir de 2022 a fait que ces tendances se sont accélérées et qu'on parle aujourd'hui d'un espace qui est en voie de scission de l'Internet global, avec différentes phases de tests techniques qui ont été développés depuis quelques années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt dans cette optique-là. C'est pas pour autant que cet Internet souverain à la russe, tel qu'il a été postulé, va prendre forme du jour au lendemain. Il faut être aussi tout à fait réaliste en matière technique, que d'une part, la loi russe a souvent été contournée dans ce champ numérique, que ce vaste projet a un coût économique tout à fait faramineux, et que dans le contexte actuel de développement d'une économie de guerre, à la faveur de la guerre en Ukraine, il y aura probablement des efforts de rééquilibrage, d'arbitrage budgétaire en faveur, pour le coup, de la guerre en Ukraine. Et enfin, il ne faut pas non plus sous-estimer les capacités de résistance, de contournement des populations, en l'occurrence des citoyens russes, par rapport à ces dispositions juridiques, qui, même si le cadre, la chape de plomb de la censure russe s'est quand même abattue et renforcée depuis 2 ans, il existe toujours quelques petites fenêtres d'expression, quelques moyens techniques de contournement, même si, il faut aussi le reconnaître, elles sont quand même largement restreintes.
La dernière grande puissance numérique dont vous évoquez dans votre étude, c'est l'Union européenne, qui est plutôt connue pour ses forces de régulation. Où est-ce qu'elle se situe par rapport aux autres puissances qu'on a évoquées ?
Alors, l'Union européenne vient effectivement à la fin de mon étude, non pas pour évoquer le retard entre guillemets l'Union européenne en la matière, parce que c'est souvent l'angle par lequel les politiques numériques de l'Union européenne est souvent le plus souvent analysée, mais pour montrer que plutôt l'UE est un peu en contrepoint de ces tendances, qui a une volonté peut-être pas de résistance entre guillemets, mais du moins de développement d'une approche un peu différente. Qu'il y a un pari là aussi sur la norme et le droit plutôt que sur la puissance brute, effectivement, et que cet effort de distinction de l'UE a plutôt visé l'élaboration de textes, de documents, qui essaient plutôt de porter une approche centrée sur les valeurs. Est-ce que c'est suffisant pour essayer de positionner l'Union européenne dans ce vaste champ qui est effectivement traversé par des logiques de fragmentation ? La question reste évidemment ouverte et je n'ai aucune prétention d'y répondre dans l'étude, mais il y a vraiment cette dimension fondamentalement juridique qui prévaut. Après, d'autres projets très, très récents, je pense notamment à l'entreprise d'aller élaborer un système de nom de domaine européen, le DNS4EU, montre bien qu'il y a quand même un intérêt du législateur européen pour ce type de projet de nature technique et pas seulement politique ou juridique. Donc c'est aussi une dimension qu'il ne faut pas sous-estimer, même si dans ce domaine purement matériel, purement physique, les différents projets qui ont pu être débattus ces 10 dernières années, je pense notamment aux câbles sous-marins européens, ou même de façon plus politique à la volonté d'Angela Merkel à l'époque chancelière allemande d'aller édifier un Schengen de l'Internet, tout ça a fait long feu pour des raisons là aussi fondamentalement politiques et lié à la nature des relations avec les États-Unis. Mais pour le coup, l'approche européenne est aujourd'hui fondamentalement articulée entre cette dimension purement juridique et un intérêt pour les risques et les menaces qui pèsent sur l'architecture technique.
Pour conclure, Julien Lossetti, une dernière question. Internet a été conçu comme un projet global que cette fragmentation remet visiblement en cause. Est-ce que cette situation d'émiettement, de fragmentation, de scission vous semble inéluctable ?
Alors, loin de moi l'idée d'avoir une approche déterministe et de dire que ce qui nous attend, c'est avant tout un futur sombre où l'Internet global tel qu'on l'utilise aujourd'hui, ouvert, libre, interopérable et tout à fait aisé à manipuler, va prendre fin à la faveur des différents risques pandémiques, financiers, géopolitiques. Je pense pas qu'on arrive à ce type de scénario assez anxiogène, mais effectivement, sur sur un plan peut-être plus économique, il faut à mon sens se préparer à cette logique de fragmentation commerciale telle que je peux l'évoquer dans mon travail et qui fait peser un risque non seulement économique mais aussi démocratique. Et c'est là où les différents projecteurs qui ont pu être mis par la Commission européenne, par le Congrès américain et d'autres acteurs est à suivre, effectivement, parce que les implications à la fois pour commerce, mais aussi pour les citoyens, sont à mon sens extrêmement forts. Donc, pas de lecture déterministe, mais en même temps une forme d'inquiétude liée à l'omniprésence, l'omnipotence, je dirais, de certains grands acteurs technologiques.
Julien Nocetti, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous encourage vivement à lire son étude intitulée « Un Internet en morceaux ?» qui peut être téléchargée gratuitement sur le site www.ifri.org. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Le Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.